Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Je suis Rachel Garavan-Carcel.
C'est parti!
Salut les wokistes! Cette semaine, on va parler de politique. On s'interroge sur la nécessité d'un parti féministe. Pourquoi n'y en a-t-il pas en France? Et pourquoi les tentatives, ici comme ailleurs, n'ont-elles pas fonctionné? Quelles sont, en revanche, celles qui fonctionnent? On accueille également une nouvelle chroniqueuse dans Quoi de Meuf, c'est Rachel Garavan-Carcel, qui est journaliste politique à 20 minutes, et qui va suivre avec nous la campagne présidentielle à venir, tous les mois, et nous donner des nouvelles d'Anne Hidalgo, de Marine Le Pen, de Sandrine Rousseau, et peut-être même d'Éric Zemmour, si tu es de bonne humeur. Bienvenue.
Je suis toujours de bonne humeur.
Bon bah tant mieux. On va passer aux news féministes de la semaine. Déjà avec le hashtag double peine qui dénonce les difficultés à porter plainte dans les commissariats pour les femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles.
On a tendance à penser que quand on se fait violer, quand on subit une agression sexuelle, les gens vont témoigner, les femmes victimes vont témoigner tout de suite. Mais en fait, ça n'existe pas. Il y a un moment de conscientisation de l'agression ou du viol qui prend énormément de temps, qui est difficile à entendre pour les proches aussi, et apparemment qui est difficile à entendre pour la police.
Donc on suivra ce qui va se passer avec ce hashtag. On nous a également signalé un peu partout la différence d'âge criante entre les comédiens Romain Duris, 47 ans, et Emma Mackey, 25 ans, en couple dans le film Eiffel de Martin Bourboulon. Sachez qu'on avait déjà consacré un épisode court à la question épineuse de la différence d'âge dans les couples dans la pop culture, donc vous pouvez vous y référer. Quant au thème de la semaine, parlons-en, faut-il ou non un parti féministe ?
Vous aurez peut-être déjà noté que, au moins depuis MeToo fin 2017, le mot « féminisme » a fait un grand retour dans le champ lexical du monde politique mainstream français. On s'entend, hein, on n'est pas débordé par les propositions innovantes et précises, mais tout de même, on peut imaginer que la rubrique « féminisme » va faire son retour dans les programmes en 2022, et croyez-nous, on aura l'occasion dans Quoi de Meuf d'éplucher tout ça. Mais est-ce qu'on n'en voudrait pas plus ? Est-ce qu'on voudrait pas, tout simplement, un parti féministe en France, comme il existe un parti socialiste, un parti communiste ou des partis écologistes, par exemple ? C'est-à-dire une organisation qui présenterait des candidates féministes aux élections et tenterait de rentrer dans les assemblées délibérantes pour pousser un agenda, je vous le donne en mille, féministe. À quoi ça pourrait ressembler ?
Et justement, la journaliste Mathilde Saliou, dans Slate, s'interrogeait déjà en 2018... Pourquoi, avec le foisonnement des associations et de tous les activistes féministes, n'y a-t-il pas de représentation politique, en tout cas sous cette forme ? Pourquoi y a-t-il une telle difficulté à institutionnaliser le féminisme sous une forme politique ?
Je m'intéresse à la politique, mais j'ai pas envie de m'engager.
Je suis contre la politique.
Pourquoi ?
Parce que je n'aime pas beaucoup de publicité, et puis aussi, ça fait... On dépense beaucoup d'argent pour rien, je crois.
Je laisse tout ça aux hommes.
Pourquoi ?
Ça m'intéresse pas.
On trouve que c'est pas l'affaire des femmes, c'est tout ? On a tellement d'autres choses à faire.
Est-ce une spécificité française ? Visiblement, en tout cas, si l'on en croit un article de Mediapart publié fin octobre, les très bons résultats de Sandrine Rousseau à la primaire écologiste auraient donné des idées à certaines de ses soutiens qui se verraient bien créer, pourquoi pas, un parti écoféministe. Alors on va d'abord se pencher sur l'histoire des partis féministes, lorsqu'il y en a eu, c'est-à-dire à quand est-ce que ça remonte exactement ? Alors c'est une idée, ou plutôt un modèle, qui est, me semble-t-il, surtout importé des féminismes des pays anglo-saxons, et ça y compris dès le 19e siècle, où la première vague du féminisme s'est surtout focalisée sur l'obtention de droits civils et politiques. Et donc à cette époque-là, la France va regarder ce qui se fait autour d'elle, notamment en Angleterre mais aussi en Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même des partis politiques féministes avant même que les femmes aient le droit de vote. En réalité, c'était plutôt proche d'associations ou de lobbies qui essayaient de peser dans le débat public. En Angleterre, par exemple, il y a eu le mouvement suffragiste, qu'on connaît bien, qui a milité pour le droit de vote des femmes, mais également pour une forme de soutien nationaliste à la patrie en temps de guerre, puisque c'était au moment de la Première Guerre mondiale.
Devant une assemblée indifférente, elle pose alors la question.
What about votes for women?
Et le droit de vote pour les femmes ? Elles ont posé la question, l'ont présenté poliment à la réunion, et aucune réponse n'a été donnée. Comme elles avaient déjà décidé de leur stratégie, elles se sont mises à crier... et le droit de vote pour les femmes.
Et en fait, tous ces efforts vont porter leurs fruits puisqu'on va finalement leur donner le droit de vote, mais ce sera surtout en raison de leur soutien patriotique plus que de leur mobilisation féministe. Et donc, pour préparer les femmes anglaises à cette entrée dans la citoyenneté, Christabel Pankhurst, qui est donc la fille d'Emmeline Pankhurst, suffragiste patentée, qui est par ailleurs une femme conservatrice, hein, ce qui montre donc que les partis féministes ne sont pas réservés à la gauche. Donc Christabel Pankhurst va changer le nom de son association qui va devenir Women's Party, mais malheureusement, ça ne va rien donner par la suite. Aux États-Unis, il y a également des tentatives à peu près sous la même forme et à peu près à la même époque. D'abord, le National Women's Party, donc le NWP, qui est fondé en 1913 et qui va être dirigé par Alice Paul et Lucy Burns. Et là aussi, contrairement aux suffragistes françaises, ces groupes anglo-saxons vont être très actifs, notamment dans leur méthode, puisque ce sont les premières à manifester devant la Maison Blanche, à faire du lobbying, mais aussi à pratiquer la désobéissance civile.
When she returned to America, Alice was determined to bring that energy home. Working with the National American Woman Suffrage Association, she organized a march in Washington, D.C. in 1913 that attracted thousands. Alice believed that lobbying Congress would be the most effective way to win the vote. So in 1916, she formed the National Women's Party with the goal of amending the Constitution.
Et comme en Angleterre, beaucoup de femmes vont être arrêtées et faire des grèves de la faim. Finalement, aux États-Unis, le droit de vote va être accordé en 1920, mais il va exclure les femmes racisées. Donc ce n'est pas une victoire totale. Voilà. Et qu'en est-il pour la France ?
Alors, sans remonter aussi loin, on peut noter l'initiative de la regrettée Gisèle Halimi et des femmes de l'association Choisir la cause des femmes. Avant les élections législatives de mars 1978, elle publie un programme commun des femmes. C'était à la mode dans les années 70, les programmes communs. Mais elles vont plus loin en présentant, je cite, 100 femmes pour les femmes, donc dans 100 des 490 circonscriptions de l'époque. Aucune candidate n'est élue ou atteint ne serait-ce que le second tour de ces élections législatives. Mais quel résultat pour ces candidates ? Eh ben, difficile à dire. J'ai retourné à peu près tout l'Internet pour trouver des chiffres sans succès. Dites-vous que j'ai même pas trouvé une liste de candidates. Si jamais vous avez ça quelque part dans un grenier, vraiment, ça m'intéresse.
Ou dans vos archives voilà. À la bibliothèque.
En 2009, Gisèle Halimi revenait sur cet épisode dans « Ne vous résignez jamais ». Elle disait « Notre aventure se solda par un échec électoral, mais nous enrichit prodigieusement. Nous avions osé, nous avions dit aux femmes d'oser, rejeter l'indifférence des partis, sanctionner l'ignorance de la cause des femmes, les féministes avaient levé l'étendard et parlé, les professionnels de la politique enregistraient dans tous les cas une défaite. »
J'ai compris à ce moment-là qu'il y avait effectivement des lois injustes, des lois qui transmettaient idéologiquement le patriarcat, la mainmise des possédants, enfin il y a une liste de lois comme ça. Et pour celles qui opprimaient les femmes, alors là, je me suis dit, il faut se battre.
Dans les années 1990, aux élections régionales, on compte plusieurs listes exclusivement composées de femmes. En 1992, une de ces listes obtient 6,11% des voix dans le Haut-Rhin et un siège au Conseil régional d'Alsace. 6 ans plus tard, elle double la mise, donc si vous avez bien suivi, avec 2 sièges et plus de 6%, mais à l'échelle de toute l'Alsace cette fois-ci. En 1998, Libération explique que lors du premier mandat, je cite, « les positions de l'élu au sein du Conseil régional, vote pour, contre ou abstention, sont définies en commun. En cas de désaccord, mais il paraît que ça n'arrive jamais, ça c'est le commentaire de Libération, Liliane Gall est priée de s'abstenir. » Alors bien sûr, présenter une liste composée uniquement de femmes, c'est déjà féministe en soi. Mais ces initiatives sont moins des listes féministes, comme on pourrait l'entendre en 2021, que des listes de femmes, c'est-à-dire qui se mobilisent contre la faible proportion de femmes élues. Il faut se remettre dans les années 1990, à l'époque la loi sur la parité en politique n'a pas encore été votée, et les femmes sont encore très rares, même dans les assemblées élues à la proportionnelle. Paradoxalement, depuis le vote de la loi sur la parité, on ne peut plus faire de listes exclusivement composées de femmes.
Arnaque.
Il est obligatoire qu'hommes et femmes alternent, c'est ce qu'on avait appelé de manière particulièrement paternaliste les listes Shabada, en référence à la chanson du film « Un homme et une femme ».
charmant. Et alors, pour parler d'autres exemples, peut-être plus contemporains à l'étranger, on trouve des émanations de partis féministes dans de nombreux pays, de l'Inde aux Philippines, en passant par la Belgique. Par exemple, il y a eu ce qu'on a appelé le Parti féministe unifié en Belgique en 1972. En Biélorussie, il y a eu Nadieja en 1994. Mais là aussi, ce sont plutôt des groupes d'influence qui servent à porter les questions d'égalité et de droits des femmes en politique. Et en général, aucun de ces groupes n'arrive réellement au pouvoir, ou alors c'est vraiment de manière très locale, comme ça a été le cas par exemple pour le parti féministe péroniste en Argentine, qui a réussi tout de même à faire monter des femmes en politique. Et il faut rappeler que l'Argentine, c'est quand même un vrai laboratoire des féminismes à l'échelle mondiale, donc c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe là-bas. Et du côté des États-Unis, encore une fois, dans les années 70, il y a quelqu'un qui s'appelle Flo Kennedy qui va monter le féministe parti, même si l'expérience sera encore une fois de courte durée. Alors Flo Kennedy, c'est une avocate africaine-américaine. D'ailleurs, dans son cabinet, elle représente à la fois Billie Holiday et Charlie Parker, ce qui est assez classe. Et elle est aussi activiste. Elle va faire le lien entre le mouvement des droits civiques et les mouvements féministes états-uniens. Elle va organiser tout un tas de conférences avec Gloria Steinem.
She was so ahead of her time. She believed that prostitution should be legalized for women. She believed that her job was to provoke folks in every single possible way that she could.
Et donc elle va créer le Feminist Party qui va servir à soutenir une sénatrice qui s'appelle Shirley Chisholm, qui est en fait la première femme noire à se présenter à l'élection présidentielle. Évidemment, sans surprise, celle-ci va rater l'investiture démocrate parce qu'on va encore une fois lui préférer des hommes blancs. Et donc, l'expérience sera de courte durée. Et pire que tout, récemment, aux États-Unis toujours, Andrew Cuomo, qui est donc l'ancien gouverneur de l'État de New York, qui a été très récemment au cœur d'un scandale sexuel assez retentissant, avait lui-même mis sur pied un tout petit parti féministe qu'il a appelé Women's Equality Party. En fait, c'était un peu un parti de façade qu'il avait créé uniquement pour attirer à lui des électrices. Et donc, il s'est lui-même présenté à la tête de ce parti lors d'une élection où il était en face de Cynthia Nixon, donc Cynthia Nixon, Miranda de Sex and the City. Donc c'est vraiment le cynisme absolu d'avoir instrumentalisé ces partis féministes pour cet homme en plus accusé de tous les maux.
Bon, il ne l'a pas emporté au paradis puisqu'il a récemment démissionné quand même de son poste de gouverneur de New York.
Voilà, il y a un peu de justice quand même.
Plus récemment en France, des listes féministes vont se présenter aux élections européennes de 2014 sous le nom Féministe pour une Europe solidaire. C'est Caroline De Haas qui est notamment à l'initiative de cette candidature et elle est elle-même tête de liste en Île-de-France.
Il y a deux éléments qui nous ont poussé à monter des listes féministes pour une Europe solidaire qui seront présentes dans 8 régions. Moi, je serai tête de liste en Île-de-France et donc pour les Françaises et Français de l'étranger. Il y a deux raisons qui nous ont poussé à faire ces listes. La première, c'est un sentiment d'urgence vis-à-vis des droits des femmes et notamment quand on regarde la situation par exemple, du droit à l'avortement en Europe. On se rend compte que l'Espagne peut décider ou menacer de remettre en cause le droit à l'avortement sans qu'à aucun moment l'Europe, qui est pourtant censée protéger les droits fondamentaux des femmes et des hommes, ne remue le petit doigt. Et ça nous a alertés sur la capacité de l'Europe à faire bouger les choses dans le sens du progrès et à être une force motrice plutôt qu'une force d'inertie, comme c'est le cas aujourd'hui, qui laisse défaire des droits fondamentaux des femmes. Et puis la deuxième chose, c'est que on se rend compte que dans les partis traditionnels, mais même dans la société en général, on n'a pas encore complètement intégré l'égalité femmes-hommes à l'ADN de nos politiques, de notre façon de faire de la politique. Il y a qu'à voir le nombre de femmes têtes de liste dans les différents pays d'ailleurs, ou en France. Et puis il y a qu'à voir la façon, quand on parle d'une thématique, à quel point on oublie les femmes.
Au total, l'initiative ne reçoit que 0,14% des voix, avec des pointes à 0,3% en Île-de-France et en Outre-mer. Ces listes vont baser une bonne partie de leur communication sur la question des droits fondamentaux des femmes en Europe et notamment de l'accès à l'avortement. Et ouais, mais souvenez-vous, en 2014, le gouvernement de droite espagnol le remet en cause et le référendum sur l'avortement en Irlande n'a pas encore eu lieu. Féministe pour une Europe solidaire fait même appel pour un de ses clips de campagne à l'actrice Corinne Maziero, qui n'a pas encore sa notoriété d'aujourd'hui, dans une parodie d'un film que je vous laisse deviner.
Le droit pour l'avortement aussi ? Il fait pas partie, il n'est pas encore inscrit dans les droits fondamentaux, le droit pour l'avortement. Ah bon ? Bah oui, ça c'est grave, oui, je comprends bien, oui. Écoutez, je n'ai plus beaucoup de batterie, je vous quitte, Marie-Cécile, je vous embrasse. Voilà, au revoir.
Commence à me gonfler, elle.
Si je peux me permettre, madame, je suis d'accord avec elle.
Avec elle, mais c'est une féministe. Vous êtes féministe, Salomon ?
Ben oui, évidemment, madame, allons.
Vous êtes d'accord pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, alors ?
Bien sûr, madame.
Et alors, toujours en Europe, évidemment, du côté de la Suède, va se créer ce qui s'appelle Feministisk Initiative. Ça, c'est en 2005. Donc, c'est relativement transparent hein, comme titre, même si, comme nous, vous ne parlez pas le suédois. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. C'est un parti qui reçoit beaucoup d'attention médiatique et qui est crédité de 7% des voix dans certains sondages peu après. Malheureusement, ça ne se confirmera pas dans les urnes, puisque Initiative Féministe n'arrivera pas à dépasser la barre du 1% aux élections. Puis, en 2014, tout ça va évoluer lors des élections européennes, où le parti obtient 5,5%, donc juste assez pour obtenir un siège au Parlement européen. Ce qui est quand même un sacré élan à quelques semaines seulement des élections législatives la même année. Mais Initiative Féministe va échouer de peu à obtenir un siège au Parlement national avec 3,1% des voix.
Alors malgré tout, en 2014, toujours lors de ces élections, le parti arrive quand même à faire élire 26 conseillères municipales dans 13 villes différentes.
Pas mal.
À Stockholm, la capitale, Initiative Féministe rentre même dans la coalition de gauche qui dirige la ville. Malheureusement, en 2018, aux élections suivantes, tous ces gains sont à peu près effacés. Côté programme, le parti se réclame de l'intersectionnalité hein, et dès 2014 soutient Black Lives Matter, par exemple. Initiative Féministe s'est positionnée sur des questions très spécifiques comme les budgets alloués aux soins obstétriques, la lutte contre les temps partiels subis, où on retrouve presque exclusivement des femmes, hein, c'est pareil en France. D'autres choses paraissent plus évidentes, comme la question de la redéfinition du viol dans le code pénal, le problème des inégalités salariales qui est... Je trouve toujours un peu la tarte à la crème des débats en faveur des femmes dans les débats mainstream français. Vous savez, on dit bah, avant l'écriture inclusive, on va vous payer bien. Oui, sauf que ça n'arrive jamais.
ça, c'est la priorité, mais...
Voilà. Alors, cette question-là, elle est abordée de manière très originale. Il était tout simplement proposé de taxer les hommes.
Ah.
Alors... pas leur existence, je rassure tout le monde, ou en tout cas les hommes qui nous écoutent, il s'agissait de taxer en quelque sorte leur excès de salaire vis-à-vis des femmes dans un même secteur.
Que ça ruisselle.
Voilà, exactement. En 2014, juste après, on en a parlé tout à l'heure, la petite percée de l'initiative féministe, la Suède bascule à gauche et devient le premier pays du monde à revendiquer officiellement une diplomatie féministe. C'est peut-être pas totalement un hasard.
I think that the reason why we have a lot of support in Sweden right now is because we need change in the way we think about politics in Sweden. We need a vision that includes everybody. And I think that most of the political parties have not been able to do this. A lot of people are really, really tired that the government and the political parties that we have in Sweden are not doing enough when it comes to gender equality or racial equality.
On en est bien loin chez nous. Moi, je me suis renseignée un peu autour de moi auprès de personnes suédoises et suédophiles de mon entourage. L'un m'a dit que ce parti avait effectivement une réelle importance, au moins dans le débat public. L'autre m'a demandé si ce parti existait toujours et m'a dit qu'il était vraiment tout petit. Donc si vous êtes basé en Suède, écrivez-nous, dites-nous ce qui se passe avec ce parti féministe parce qu'on s'inquiète. Et alors si on poursuit notre tour du monde des partis féministes, il y en a aussi en Angleterre, même si on n'est absolument pas au courant en France. Il existe depuis 2015, c'est le Women's Equality Party. Là aussi, c'est encore une fois un tout petit parti. Il a été créé par trois journalistes qui étaient frustrés qu'aucun parti politique ne représente réellement les droits des femmes. Ça, c'est ce qu'elles disent. Leur plateforme est assez basique et assez consensuelle. Encore une fois, on retrouve l'égalité salariale, l'égalité dans le congé parental, etc. D'ailleurs, elles ont bien dit qu'une fois que les autres partis auraient adopté cet agenda, elles pourraient se dissoudre et reprendre une vie normale. Elles se sont mobilisées sur deux sujets assez chauds en Angleterre. Déjà, contre les violences faites aux femmes. On pense à l'affaire Sarah Everard qui a eu lieu il y a quelques mois. Et pour la libre identification des personnes trans qui a été au cœur du débat public également ces dernières années.
Oui. Believe that the whole political establishment, all the political parties out there are letting women down. They're not addressing these problems. They're not taking these problems seriously.
Outre fait d'armes, elles se sont mobilisées lorsque des parlementaires anglais ont été accusés de harcèlement sexuel en 2017. Elles ont insisté pour qu'il y ait une enquête et qu'il soit suspendu. Et elles se sont également présentées aux élections municipales de Londres en 2020. Alors malheureusement, à cause du Covid, ces élections ont été reportées. Mais en tout cas, elles avaient une candidate qui s'appelle Sue Black, qui est anthropologue, qui hélas a dû abandonner à cause d'un problème de santé. Voilà, alors ces femmes politiques ont été critiquées parce qu'elles sont blanches, de classe moyenne et en majorité originaires de Londres. Néanmoins, on peut dire que leur leader, qui s'appelle Mandy Reid, est une femme métisse. Mais aussi parce que le terme utilisé dans le titre de leur parti, femme, donc women, n'est pas non plus très inclusif. En tout cas, on attend avec impatience de voir quelle sera leur participation aux prochaines élections en Angleterre. Et l'universitaire Véronique Molinari, dans la Revue française de civilisation britannique, écrit, je la cite, « Son nom ainsi que son programme basé sur 6 points évoquent très clairement le Women's Party de Christabel Pankhurst et le Six Point Group de Margaret Hay, tous deux fondés au moment de l'obtention du droit de vote par les femmes en 1918 et accompagnés d'autres tentatives, tant au niveau parlementaire que local, de fonder un parti féminin. De telles similitudes avec des événements qui ont maintenant près d'un siècle ne peuvent manquer de susciter un certain nombre d'interrogations, non seulement quant aux raisons qui expliquent son émergence, mais également quant à la pertinence pour les femmes aujourd'hui de continuer à s'organiser distinctement des principaux partis politiques plutôt qu'essayer de faire changer les choses de l'intérieur. » Fermez les guillemets. Effectivement, c'est deux voies distinctes, deux tensions en tout cas, qui se posent quand on parle de création de partis féministes. Et parle-nous un peu, Rachel, de la situation aux Pays-Bas.
Oui, je voulais quand même donner un dernier exemple. Aux Pays-Bas, donc en 2017, s'est créé un parti qui s'appelle en néerlandais Ensemble. Alors, c'est pas exactement un parti féministe, c'est carrément le parti des woke.
Des wokistes.
Et voilà, il s'est fondé sur des thèmes antiracistes, mais lui aussi intersectionnel, donc en partie féministe. Aux élections législatives du début de l'année, il n'a obtenu que 0,84% des voix, mais, aux Pays-Bas, c'est suffisant pour obtenir un siège sur les 150 de la chambre basse du Parlement du Royaume.
Trop bien, vive les Pays-Bas. Et alors, tuto pratique, comment faire pour créer un parti? Alors, sur le papier, créer un parti politique en France, c'est bête comme chou. En fait, il suffit de créer une association loi 1901. Une association, certes, à caractère politique, mais ça ne change pas grand-chose. Il faut donc faire une déclaration en préfecture, déposer des statuts, faire une assemblée générale constitutive, etc. À la seule différence qu'il faut en fait créer une deuxième association ensuite, c'est-à-dire une association de financement qui aura pour seul but de collecter l'argent pour le parti. En fait, c'est une manière de mieux contrôler les fonds des partis politiques. Donc tout ça, c'est vraiment la partie la plus simple et ensuite ça se corse parce que qu'est-ce qu'on va proposer comme programme ?
Ouais, c'est évidemment la partie la plus épineuse, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de manière très généraliste d'un parti féministe, mais on sait très bien qu'on doit parler de féminisme au pluriel. Les mouvements féministes sont divisés de multiples fractures. Dans un article du Monde à l'été 2020, la journaliste Marie Slavisek avait résumé ça sous 4 grands thèmes. La question de la prostitution, celle du port du voile et de l'islam, mais on pourrait dire plus généralement du racisme, celle de la GPA, la gestation pour autrui, et enfin la question de la place des femmes trans. Rien qu'avec ces 4 questions, on a déjà bien des combinaisons de positionnements différentes pour un potentiel parti féministe. Alors Marie Slavisek le rappelle dans son article en citant l'historienne Bibia Pavard, ces divergences parfois violentes n'empêchent pas les possibilités d'agir ensemble et de se retrouver autour de certaines grandes causes. C'est vrai. Un parti féministe devrait-il donc alors se limiter à être une grande ombrelle pour toutes les chapelles du féminisme via une sorte de plus petit dénominateur commun ? Ou doit-il plus clairement choisir son camp, quitte à se retrouver face à d'autres féministes ? Sans compter que, parallèlement à ces divisions sur le fond, il y a aussi des divisions sur la forme, là aussi bien connues entre mouvements plus institutionnels et d'autres plus radicaux. On parlait un peu plus tôt donc de 100 femmes pour les femmes, l'initiative de Gisèle Halimi et de choisir la cause des femmes en 1978. Bah, vous l'imaginez bien, ce projet, il avait largement essuyé les critiques d'autres groupes féministes à l'époque.
Oui, et surtout, ces questions-là, ces fractures, elles n'existent pas que chez les féministes. Pour prendre un exemple assez parlant, on les trouve aussi chez les écologistes. Il faut savoir que quand un premier candidat écolo à la présidentielle s'est présenté en 1974, c'était René Dumont à l'époque, ce n'était pas du tout une évidence comme aujourd'hui, et les groupuscules portant l'écologie politique en France à la fin des années 70 et au début des années 80 étaient eux aussi nombreux et divisés, donc ça a mis un certain temps à s'agréger. Mais aujourd'hui, les écologistes sont une force politique majeure, hein, on ne vous apprend rien. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les divisions, hein, puisqu'on l'a bien vu récemment avec la campagne de la primaire perdue de justesse par Sandrine Rousseau face à Yannick Jadot.
Et aujourd'hui, le cœur de cette reconquête, le cœur de cette transformation de notre société, c'est l'écologie.
Donc la question, en fait,
aujourd'hui,
c'est
le défi, il est écologiste.
Derrière qui on se rassemble ? C'est ça la vraie question.
Ah bah, c'est toujours la question, mais c'est une sempiternelle question et c'est pas une petite question. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus imaginer que c'est quelque chose qu'on résout en claquant dans les doigts.
Ça n'empêche d'ailleurs pas non plus les questions sur la pertinence de l'existence d'un tel parti écolo. On entend souvent que désormais l'écologie serait dans tous les partis avec leurs nuances, qu'elle ne doit pas être la propriété d'un seul parti, donc sous-entendu Europe Écologie des Verts. Peut-être, mais est-ce que l'écologie serait partout, comme on dit qu'elle l'est aujourd'hui, sans ce succès des Verts à la base ? Pas sûr. En tout cas, si on suit ce modèle, les divisions parfois fondamentales et les questions sur la pertinence d'un parti féministe ne sont pas, en tout cas, rédhibitoires, mais il y a un long chemin à parcourir.
Un petit peu.
Ouais.
On va écouter le témoignage de Marie-Cécile Nave, qui est directrice de recherche à l'IRIS et qui a écrit « La démocratie féministe » chez Kalman Lévy. On lui a demandé à quoi pourrait ressembler un parti féministe en France d'après elle.
Alors, l'objectif d'un parti féministe devrait être, en plus de la défense des droits des femmes, l'émancipation de toutes et de tous, donc une société plus inclusive, mais aussi un agenda respectueux de la planète, une manière de gouverner moins verticale, une confiance dans la science et notamment les sciences sociales, et la réhabilitation du débat démocratique contre le bruit perpétuel de la polémique. En gros, s'inspirer de l'intelligence collective pour gouverner au lieu d'avoir peur des voix dissidentes et de l'esprit critique. Un parti féministe remettrait de la subjectivité, du politique, du commun dans la société. Comme je le dis dans mon livre, le leadership féministe, ce n'est pas un leadership au féminin, c'est un leadership qui est dégenré, qui n'est pas viriliste. Mais le féminisme, j'ai envie de dire, c'est un projet de transformation globale de la société et une approche consciente des enjeux de genre qui devrait être commune à l'ensemble des politiques publiques. Et bien sûr, il faut partager le pouvoir. Or, la vague anti-MeToo est forte et violente. Je crois qu'il est important d'arrêter de se focaliser sur les divisions au sein du féminisme. Heureusement qu'il y a des désaccords, heureusement qu'il y a des débats. Il y en a toujours eu et c'est ce qui permet de progresser. L'intérêt d'un parti pour les féministes, c'est d'exister de manière différente dans le champ politique et médiatique, en dehors de la sphère militante, en dehors de la sphère universitaire quand il s'agit de sciences et de sciences engagées. Et donc, on s'adresse peut-être à un public différent, avec des mots différents, et dans un cadre de débat différent avec les autres partis politiques, les autres hommes et femmes politiques. Et puis, on va se concentrer aussi avec un parti féministe sur l'agenda, c'est-à-dire sur le programme, sur les politiques publiques que l'on veut mener. Et ça oblige, ça contraint, mais de manière positive, la sphère militante et ou la sphère scientifique à formuler en termes de programmes politiques des revendications militantes ou de faire le lien, de faire le passage, d'être des passeurs entre les résultats de la recherche et ce qu'on peut faire après concrètement dans une réforme gouvernementale ou législative. Donc, finalement, ça permettrait de lier entre elles des sphères qui ont leur propre manière d'envisager les questions féministes, mais ne font pas nécessairement la reformulation en termes de politique publique.
Je retiens tout particulièrement la fin de la réponse de Marie-Cécile Nave quand elle explique que ça doit permettre de relier les champs universitaires, activistes et politiques. Or, un parti politique, c'est quand même là pour raffiner en quelque sorte ce qui est exprimé par des mouvements sociaux et analysé par des intellectuels. Je crois que c'est vraiment une clé. Ce jeu à trois, là, c'est quelque chose qui manque fondamentalement à la gauche française depuis peut-être une vingtaine d'années. Et ça se sent, elle n'est plus portée par grand monde et manque sérieusement d'idées neuves. Et si, après tout, cette réunification-là, elle était portée par des féministes ?
Alors justement, toi Rachel, tu votes pour ou contre un parti féministe ?
Bah évidemment, c'est difficile à dire puisque on l'a dit, un parti féministe, ça peut recouvrir plein de réalités différentes, au moins d'un point de vue programmatique. Bien sûr, les initiatives suédoises ou néerlandaises sont assez séduisantes, vues de loin en tout cas. Après, je crois qu'on peut pas tout à fait faire un copier-coller. Le système institutionnel français de la Ve République et le système électoral qui va avec, majoritaire la plupart du temps, sont très défavorables aux petits partis qui essaient d'émerger. On n'a pas d'élus en France avant de faire de très gros scores électoraux. Donc dans le système actuel, je crois pas trop à la pertinence d'un parti féministe qui aurait forcément du mal à décoller. A-t-on tant d'énergie à mettre dans un parti qui obtiendrait quelques pourcents sans réel espoir d'obtenir des élus pour peser ? Je m'interroge. Et puis, faire tourner un parti politique, ça coûte très cher. Je crois pas qu'actuellement les mouvements féministes français roulent tellement sur l'or. Je crois pas révéler quelque chose. Si dans un avenir proche, le système électoral changeait, s'il devenait réellement proportionnel avec une barre pour avoir des élus moins hautes qu'aujourd'hui, alors je changerais peut-être d'avis et je me rangerais peut-être à l'analyse de Marie-Cécile Nave. En attendant, essayer d'influencer les partis de l'intérieur, de faire de l'entrisme, en fait, me paraît peut-être plus efficace. Qu'on se comprenne bien, hein, c'est clairement un investissement qui reste très aléatoire, mais peut-être moins qu'un parti dans les conditions actuelles. Et toi, Clémentine ?
Bah, du coup, j'espère que les partis politiques écoutent ce podcast. Hein. Ça aussi, c'est une manière de faire de l'entrisme. Bah oui, moi, effectivement, je constate qu'on vote rarement pour la personne qu'on veut voir gagner, malheureusement, à cause de ce système, et que c'est souvent plus un choix stratégique. Donc, même s'il y avait un parti féministe, est-ce qu'on pourrait réellement voter pour ? D'ailleurs, la question, c'est posé plus ou moins en ces termes, hein, dans le vote pour Sandrine Rousseau à la primaire écolo, c'est-à-dire un vote radical versus un vote vu comme plus rassembleur en tout cas. Et c'est vrai que par ailleurs, certains principes comme l'horizontalité, hein, qui sont prônés par nos mouvements militants, sont quand même assez opposés aux logiques politiques. D'ailleurs, on voit bien que des mouvements comme Nuit Debout ont un peu périclité, enfin, ça n'a pas donné grand-chose ensuite. Moi, ça me semble assez symptomatique des nébuleuses d'extrême-gauche qui parfois n'arrivent pas à se rassembler, en tout cas sous cette forme-là. Et je le regrette, bien sûr.
Le moment
pop culture.
Pop culture.
Alors, dans la pop culture, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'exemples, hein, comme quoi on peut inventer de nouvelles civilisations dans d'autres galaxies, mais alors penser à un parti féministe, là, par contre, il n'y a plus personne.
La science-fiction a ses limites, Clémentine.
C'est ça.
On vous parlait un peu plus tôt d'Alice Paul et Lucy Burns. Il y a un film, sans doute pas terrible, avec Hilary Swank, Iron Jawed Angels, qui a été diffusé directement sur OCS en France en 2018.
The new suffragist is single, young, independent, educated, and very beautiful.
She's you.
An ideal woman who can lead us up the mountain.
Mm-hmm. Marching shows the politician.
Show me a race. Screw the politician.
Go ahead if you think it'll help.
Il suit la formation de la National American Woman Suffrage Association et montre les dissensions au sein des mouvements féministes de la première vague entre agir au niveau local ou fédéral aux États-Unis.
Eh bien, peut-être qu'on ne le regardera pas. Je ne sais pas, dites-nous si vous l'avez vu. Il y a une autre série dont on a déjà parlé dans un épisode court qui met là aussi en scène des personnes qu'on vient de mentionner dans l'épisode. C'est Mrs. America, où l'on voit Flo Kennedy et Shirley Chisholm. Donc, Mrs. America, ça raconte l'histoire du Equal Rights Amendment et la théorie mise en scène par cette série, c'est que la fautive est une femme conservatrice qui s'appelle Phyllis Schlafly.
I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement.
En réalité, c'est plutôt des hommes politiques hein, qui se sont opposés au passage de cette loi, donc le Equal Rights Amendment, contrairement à la théorie du catfight qui est avancée par cette série. Mais bon, passons. Sachez qu'on peut également croiser Flo Kennedy et Shirley Chisholm dans le film The Glorias, qui est diffusé sur Amazon Prime et qui met en scène Gloria Steinem.
All the magazine people said don't do a lesbian story in the first issue, so I feel like we need to do a lesbian story.
Il y a un docu de Liv Weisberg qui suit la construction du parti féministe en Suède, Initiative Féministe, on vous en parlait tout à l'heure. Mais pour l'instant, on ne peut pas le voir en France, on trouve juste une bande-annonce sur YouTube et rien que ça donne très envie.
Oui, donc si vous êtes diffuseur, merci d'amener ce film en France pour qu'on puisse enfin le voir. Et du côté de la littérature, il y a un livre d'anticipation de Bernard Quirini qui s'appelle Les Assoiffés. C'est une satire qui fait un peu penser à Michel Houellebecq, franchement, puisque en Belgique, un parti de femmes prend le pouvoir et se trouve être un parti totalitaire et une dictature. Mais bien sûr.
Le roman d'anticipation Le Pouvoir de Naomi Alderman, où lorsque les femmes accèdent aux responsabilités politiques, comme les hommes, elles peuvent en abuser.
Oui, très bon roman, par ailleurs.
Les recommandations culturelles de Croix de Meuf.
Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ?
Alors, vous me connaissez pas encore, mais sachez que je dévore des podcasts matin, midi et soir, donc je vais vous parler d'un podcast, un récent épisode de Transfert qui s'appelle 20h pile. C'est un récit à la première personne, comme d'habitude, cette fois d'une infirmière dans un hôpital qui raconte au plus près comment son service, à l'origine la salle de réveil du bloc opératoire, a affronté la première vague du Covid-19. Lisa nous remet complètement dans cette période, au minimum très particulière de nos vies. On passe vraiment par toutes les émotions quand elle nous raconte les événements de cette première vague à hauteur de femme, tout en même temps l'inhumanité et l'humanité de cette période qui, à n'en pas douter, va rentrer dans les livres d'histoire.
Oui, je l'ai aussi écouté et j'étais en PLS. Je compatis. Alors moi, de mon côté, je vous recommande le dernier ouvrage de Déborah Lévy. C'est « État des lieux » aux éditions du Sous-sol, toujours traduit par Céline Leroy. Alors Déborah Lévy, on lui avait consacré un épisode court autour de la sortie de son livre « Le coût de la vie ». Sachez que celui-ci commence en parlant de Georgia O'Keeffe, à qui on a aussi consacré un épisode court très récemment, donc il n'y a pas de hasard. Et ce nouveau livre, donc c'est une autobiographie vivante qui parle de la femme de 50 ans et plus qu'est Déborah Lévy et elle raconte qu'elle n'est jamais l'héroïne d'aucune fiction. Elle raconte aussi le fait de chercher une maison et un foyer, même s'ils ne sont qu'imaginaires, malgré ses maigres moyens d'autrice, et c'est toujours aussi bien. Voilà, je vous laisse le découvrir. Alors j'espère qu'on a fait le tour de la question des partis politiques féministes. Vous pouvez en tout cas nous écrire sur cette question sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à être référencés. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court où l'on parlera de la série punk féministe We Are Lady Parts. Merci, salut Rachel.
Salut Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste chroniqueuse Rachel Garaval-Carsen,
mixage et montage Laurie Galigani, prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, réalisation et coordination, Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin.